Alors, est-ce que nous aurons du cannabis légal pour la fête du travail? Probablement.
C'est possible. Ouais, on parle de 8 à, la période, c'est 2 à 3 mois, là, 8 à 12 semaines. Donc, au plus tôt, ça nous amène mi-août, au plus tard, mi-septembre, donc dans ces eaux-là. Qui est particulier parce que au Québec, ça pourrait devenir légal alors qu'on soit en pleine campagne électorale.
Ouais. Donc,
la première journée de la vente officielle de légalisation pourrait tomber en
pleine... Au vu que ce soit légal avant le 1er octobre, je pense qu'on va avoir besoin de fumer.
Ouais, le lendemain, t'es inquiet.
Peut-être.
Pour te calmer.
Je dois commencer par dire que je suis assez déçu de l'attitude des sénateurs.
Oui.
Qui sont effoirés, là, sur deux questions fondamentales. La question du pouvoir des provinces, puis qu'on soit d'accord ou pas avec la culture à domicile, il était question de pouvoir des provinces. Ça fait partie des responsabilités du Sénat de défendre les pouvoirs des provinces, des responsabilités fondamentales. Sur l'autre question, on en a un exemple dans le journal le matin, la question de la registre, du registre, de la transparence, de savoir, là, au-delà d'une compagnie à numéro inscrite aux îles Caïmans, là, qui sont les gens qui investissent dans le cannabis, parce que le gouvernement Trudeau nous avait dit, le but, là, c'est de sortir le crime organisé. Mais on ne veut pas que le crime organisé, que l'argent du crime organisé, caché derrière des paravents de compagnies à numéro inscrites dans des paravents de paradis fiscaux, qui profitent de la légalisation. On a vu ça dans le passé, là. Tu sais, le crime organisé, l'argent sale qui revient dans l'économie légale, là, ça
oui. Ça que...
Même dans un film, on en parle récemment. Oui, c'est ça.
Je suis très au courant de cette partie-là, moi.
Donc, tout ça pour dire que le Sénat avait raison sur le fond. Puis là, j'entendais le sénateur Pratt dire « Oui, mais là, on voulait pas créer une crise constitutionnelle. Ah, attends un petit peu, là, hein, que le Canada soit... » Mettons que le Sénat avait tenu son bout hier, je pense pas qu'un matin, on sera en crise constitutionnelle. Là. La plus grosse crise, c'est que peut-être que les députés fédéraux auraient été obligés de revenir siéger la semaine prochaine. Excuse-moi, ils sont payés pour ça. Là. Si ça prend un peu plus de lois que prévu. C'est une des réformes les plus importantes au Canada. On est le premier pays du G7, un des seuls pays au monde à avoir fait ça. Si ça prend une semaine de plus, 10 jours de plus... Mais moi, je pense qu'il aurait été normal que le Sénat, sur des questions aussi fondamentales, tienne son bout. Parce que là, le Sénat a étudié fort pendant 3 mois, est arrivé à ses amendements quand même sur des questions sensibles.
Mais pour toi, l'échéance, c'était quand? C'est-à-dire dans le sens qu'il aurait dû étirer ça encore?
Non, mais là, c'est parce que là, M. Trudeau a dit non. Le Sénat a renvoyé le projet de loi à la Chambre des communes avec des amendements. M. Trudeau, le gouvernement de M. Trudeau, qui est majoritaire dans l'autre chambre, a dit non. On n'en veut pas de ces amendements-là. Puis là, c'est revenu au Sénat, puis ils ont dit, ah ben...
Ça prend l'approbation du Sénat.
Ouais.
Donc, le Sénat, je vais aller plus loin que toi.
Ils ont dit, ben, OK, d'abord. OK,
moi, je trouve qu'ils ont jeté la première pelletée de terre sur leur propre cercueil. J'avais un certain... Non, mais tu sais, quand j'ai vu les sénateurs, maintenant indépendants, nommés mais indépendants, donc plus inféodés à un parti ou à l'autre, aux libéraux ou aux conservateurs, ou à... ben, essentiellement aux libéraux et aux conservateurs, je me suis dit, ah, ben il y a peut-être de l'espoir pour cette institution-là, qui est une institution vieillotte dans notre système parlementaire, parce qu'ils sont pas élus. Donc, tu sais, donc et c'est ça leur argument de base. On maintiendra pas notre bout parce qu'on n'a pas le pouvoir démocratique d'avoir été élu. Mais en même temps, on était content de voir qu'ils jouaient enfin un rôle. Les sénateurs...
Ils l'avaient fait sérieusement, là.
Ils l'avaient fait sérieusement. L'étude était sérieuse. Des gens crédibles, avec un argumentaire qui était... Et surtout, avec une position sur le fédéralisme. Mais là, en s'effondrant comme ça, ben, regarde, ils viennent de faire la démonstration que c'est inutile, cette chambre-là, et qu'elle devrait disparaître. D'autant plus que... Et il s'agit pour eux, dans ce cas-là, ils défendaient, tu l'as bien dit, l'autonomie des provinces. Donc, il y avait une opinion sur le fédéralisme, sur l'institution dans laquelle ils sont un rouage, en principe, qui a déjà été important et qui était en train de regagner un petit peu d'importance. En s'effondrant, là, ils viennent aussi d'entériner le fait qu'on n'est plus dans un fédéralisme coopératif, si on l'a jamais été, mais on est dans un fédéralisme qui nous impose à nous autres, le Québec.
Ouais, mais ça passe pas par le Sénat, ça passe par l'attitude du gouvernement qui est en place. Plus.
Oui, je sais, mais le Sénat...
Le Sénat est supposé être un chien de garde quand même.
Oui, mais ça. Moi, je trouve juste que le Sénat, on le sait par définition, là, que le pouvoir est limité. C'est-à-dire que tu peux bien tirer la sauce pendant un bout, là, mais ça demeure que la vraie bataille va se faire, exemple, sur le plan de pot, par une cause type, puis là, on va y aller avec toutes les étapes.
Avec la Cour suprême. Mais avoue
que c'est quand même particulier. C'est-à-dire que le Parti libéral va porter, et c'est la deuxième fois, parce qu'il y a aussi l'aide à mourir qu'on oublie, mais où il y a des législations qui s'opposent entre celle du Québec et celle du fédéral. Et là, dans le cas du cannabis, on a deux législations qui s'opposent. Ce qui est légal au Québec n'est pas forcément légal et vice-versa. Bref, la Cour suprême, le Parti libéral, s'il reste au pouvoir, et tant qu'il est au pouvoir, va défendre devant la Cour suprême, ultimement, l'autonomie de la province. Alors que c'était dans les mots d'ordre du Parti québécois, il faut démontrer que le fédéralisme nuit aux intérêts du Québec. Mais regarde, là, c'est le Parti libéral qui est obligé de défendre les intérêts du Québec face à un pouvoir fédéraliste qui nous contraint à l'encontre de notre volonté, là.
Ouais. C'est assez important. Parce que cette notion de crise, là, tu sais, que si, mettons que le Sénat, hier, là, disait, nous autres, ces deux amendements-là, on y tient mordicus, puis les réadopte dans une autre... Là, je dis, on crée une crise, mais je veux dire, la politique, c'est aussi ça, là. Ce qui fait que les choses changent, que les choses bougent, là. Je veux dire, une crise, là, tout le monde serait pas parti, il serait pas allé...
Non.
Il serait pas allé collectivement se suicider en se tirant dans l'Atlantique, là. Je veux dire, ils se seraient assis ensemble, ils auraient regardé les textes.
Ben, c'est l'exercice d'un contre-pouvoir.
Dans le cas des paradis fiscaux, nommez-moi une mesure adoptée ou promise par le gouvernement Trudeau qui est sévère à l'endroit des paradis fiscaux.
Mais là, dans ce cas-ci, Paul, c'est encore plus gros.
Non, je sais.
Parce que c'est à l'inverse. C'est que le gouvernement Trudeau défend le droit
à des paradis fiscaux de venir, de prendre du cash dans les paradis fiscaux puis investir dans
sans qu'on sache c'est qui les noms.
On soupçonne que tu peux aisément soupçonner qu'il y a de l'argent mafieux qui va financer.
En tout cas, du monde qui cache l'argent pour des pas pour le paysage puis la couleur du sable.
Pour toutes sortes de raisons.
Mais moi, je te le dis, je n'ai pas vu aucune mesure du gouvernement Trudeau dans tous les budgets de Bill Morneau. Là. Tu dis, attends un peu, là, ils sont sérieux pour l'évasion fiscale puis les paradis fiscaux. Rien.
Non, ils le sont
mais pas. Là, ça
on peut
reste,
se demander pourquoi. Ouais.
Mais ça reste quand même, parce que là, aujourd'hui, c'est adopté, ça reste un succès, je mets le mot en guillemets, parce que moi, j'étais pas pour, mais pour M. Trudeau, quelque chose qui a pris au point A, qui a ramené au point Z, il a tout fait les étapes, a tout passé les étapes, ça va devenir légal. Pour moi, ça demeure un certain mystère, c'est-à-dire que dans la, mettons à la fin de son mandat, là, tu sais, dans la carrière d'un politicien, quel qu'il soit, de dire, quoi t'as fait d'important dans moi la grosse affaire pour laquelle je me suis battu, puis tout le processus parlementaire, puis ça a pris des années, puis c'est la légalisation du pot. De tous les problèmes d'une société, les problèmes qu'ont les enfants, l'éducation, la santé, les vieillards, de tous les problèmes de la société, je me demande toujours comment un élu peut arriver à dire « Wow, ça, la grosse affaire. » Au Canada, là, la grosse affaire, c'est ça. Mais bon, c'est ça. C'est fait, c'est conclu.
Et la grosse affaire aussi, c'est la Cour suprême va se prononcer sur les champs de compétences provinciaux face au fédéral à partir de peut-on posséder ou pas quatre plants de pot dans
quoi?
Sa cour. Mais
Pierre, je suis quasiment sûr que les provinces vont gagner. À 99%, je suis sûr que les provinces ont ce pouvoir-là de l'interdire. C'est-tu quoi? Je pense que M. Trudeau, il le sait. Puis c'est justement parce que lui, idéologiquement, là, il est tellement... Il veut tellement plaire aux gens qui sont pro-marijuana, qu'il veut montrer que lui, il est prêt à mener la bataille jusqu'au bout, incluant... Tu sais, c'est comme, c'est vraiment idéologique, là. T'as le droit d'avoir des plans chez vous, puis tout ça, puis... Mais je pense, sur le fond, là, tous les constitutionnalistes, c'est pas tout le monde...
C'est la défendre, en tout cas.
Tout le monde semble d'accord pour dire, ben, regarde, toi, le fédéral, tu gères le code criminel. Tu nous dis, ce n'est plus criminel. Mais une province peut décider, regarde, c'est plus criminel, mais moi, dans ma province, il n'y en aura pas, là.
Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin, 8h56. La couronne nord.